êtes sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, sans Dieu, ni maître, ni publicité. Bonsoir, vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître et sans publicité. Ce sont les Muses s'amusent. Ce soir, nous interrompons notre grand cycle sur le Louvre à cause d'une visite qui va nous être donnée à Paris. Vous savez que Sa Sainteté le Pape va venir nous rendre visite à Paris. Alors évidemment, il faut quand même que Radio Libertaire ne laisse pas passer une telle occasion, et je vais donc consacrer cette émission à deux livres tout à fait délicieux. Le premier qui s'appelle « La vie sexuelle des papes », sous-titre « La chronique scandaleuse du Vatican », par M. Nigel Cawthorne, C-A-W-T-H-O-R-N-E, je répète, C-A-W-T-H-O-R-N-E, Cawthorne. Ça a été publié par Evergreen, et un livre nettement plus ancien, mais non moins savoureux, d'un auteur que les anarchistes sont censés connaître, André Lorullo. Ça s'appelle « Histoire des papes », et ça avait été publié par les éditions de L'Idée Libre. Et petite suggestion aux éditions du Monde Libertaire ou aux autres éditions anarchistes, ça serait une bonne idée que de réimprimer, de rééditer cet excellent livre de Lorullo. Et puis, si vous êtes intéressé par l'histoire scandaleuse, abominable, de la papauté, eh bien, même les livres apparemment non polémiques, voire les livres catholiques, sont une source précieuse et fort intéressante sur tous les crimes, les scandales et les vices des papes, des presque 300 papes qui ont été au Vatican. Alors, je vous donne juste là une petite liste, par exemple, de M. Laurent Boisvert. Vous avez le célibat religieux aux éditions du Cerf en 1990, l'histoire des papes de M. Castella, chez Stauffacher. Bien entendu, la vie quotidienne de la cité du Vatican, cette collection La vie quotidienne, je vais probablement bientôt en lire plusieurs volumes, c'est toujours excellent. De Dieu Jean-Pierre, de Dieu, un nom prédestiné, l'Inquisition, également aux éditions du Cerf, de Albert Ellis, Célibat et sexualité. Ça a été publié à la Table Ronde en 1968. Le grand classique de Orestes Ferrara, le pape Borgia, Alexandre VI. Alors évidemment, les Borgia, comme vous le savez, ils ont absolument tout fait. Il faut lire certainement l'Inquisition de M. Henri Maisonneuve, même si c'est chez Desclés et compagnie, et l'histoire de l'Inquisition au Moyen-Âge de Henri-Charles Léa. Et puis, vous devez lire Sodoma, le livre récent sur l'homosexualité, pas très caché au Vatican de nos jours. L'auteur de Sodoma étant lui-même un journaliste homosexuel, il a pu avoir accès, dirons-nous, des accès de première main pour conserver une certaine décence à cette émission. Alors, pour en arriver au livre de Nigel Cawthorne, La vie sexuelle des papes, l'avantage de ce livre est qu'il nous parle vraiment de tout ce qu'on a pu savoir sur la sexualité des papes depuis le début. Et ce qui est fascinant, c'est qu'on a pu en savoir beaucoup, entre autres choses, tout simplement parce que le pouvoir des papes a toujours été un pouvoir polémique, un pouvoir contesté, souvent à l'intérieur même de l'Église catholique, et même tel ou tel pontificat a pu être alors, calomnié, accusé, révélé, dévoilé par les pontificats successifs. On a donc une large quantité d'informations croustillantes grâce au réquisitoire dressé par tel pape contre son prédécesseur, en particulier aux époques où, quand on était le successeur d'un pape, cela pouvait éventuellement signifier qu'on avait fait empoisonner ou assassiner son prédécesseur. Alors, histoire de se justifier, on dressait la liste de ses crimes, des crimes qui étaient évidemment identiques à ceux que l'on allait commettre. Alors, commençons par exemple par un pape appelé Léon Ier, qui a dû régner sur le Vatican de 440 à 461, et voici ce que Nigel Cawthorne en dit. Léon Ier était un curieux personnage. Grand adepte de la virginité des femmes, il exigeait que l'on contrôlât le pucelage de celles qui voulaient devenir religieuses pendant 60 ans, avant de les laisser prendre le voile. Les évêques avaient toutefois le droit de conserver leur épouse, à condition de les traiter, ouvrez les guillemets, en sœurs, fermez les guillemets. Là, je me permets une petite interruption. Le célibat des prêtres est quelque chose qui va être décidé, en gros, en l'an 1000, le célibat des évêques un peu avant, mais dans l'Église catholique originelle, les clercs, les prêtres, etc., étaient absolument mariés. Ce sont les moines qui ont voulu avoir le célibat dès le début. Après que les moines aient fatalement toujours obéi à leurs vœux de chasteté, c'est là quelque chose d'extrêmement débattable. Je reviens dans le livre de Nigel Cawthorne. Léon fut aussi un tortionnaire, sadique et pervers. Lorsqu'il entama sa campagne contre le manichéisme, secte chrétienne dans laquelle on retrouvait les derniers vestiges du paganisme, il fit sauvagement torturer ses adeptes. Il exigeait d'eux des aveux très particuliers. Ils devaient confesser avoir mélangé du sperme au Saint-Sacrement, s'aidant de la présence de jeunes filles couchées sur l'autel. Léon fut le premier pape à réclamer la mort pour tous les hérétiques, à savoir tous ses contradicteurs. Je reprends la parole. Notons ce nom, Léon, qui est précisément celui du pape qui va nous faire l'honneur de nous rendre visite. Je reviens au livre de Cawthorne. Le pape Félix III, 483-492, se montra plus civilisé. Lui aussi, fils de prêtre comme Léon Ier, il suivit les dignes traces de son père et ne resta pas célibataire. Quand il accéda au pontificat, il était veuf et avait eu au moins deux enfants, dont l'un fut l'ancêtre du pape Grégoire Ier, 590-604. Gélase Ier, 492-496, et Anastase II, 496-498, étaient l'un et l'autre fils de prêtre. Anastase incarna une conception nouvelle et plus autonome de la vie d'un pape. Pour reprendre la pittoresque formule de l'historien Volaterranus, ouvrez les guillemets, il se délestait seul les boyaux, fermez les guillemets. Autrement dit, il déféquait sans assistance à une époque où, à l'instar des empereurs ou des rois, les pontifes romains avaient besoin d'un officier de la chaise. Le pape Symmaque, 498-514, qui lui succéda, n'était pas fils de prêtre. Élevé dans le paganisme, il ne renonça jamais totalement aux croyances de sa jeunesse. Il remporta une sourde bataille de Potvin qui lui permit d'être pape contre l'antipape Laurent. Alors évidemment, les mots antipape, vous êtes probablement familier de cette notion. Il y eut dans l'histoire jusqu'à trois papes simultanés, donc fatalement deux antipapes et un pape vrai, authentique, canonique. Ça n'est pas à nous de décider qui étaient les antipapes et qui étaient les papes. Mais appelé à comparaître devant Théodoric, roi ostrogothe de l'Italie pour débauche, adultère et simonie, Symmaque parvint à s'enfuir et se réfugia dans Saint-Pierre de Rome. ce qui fut interprété comme un aveu. Par trois fois, Simac fut convoqué devant le synode. La première, il refusa de témoigner. La deuxième, il ne se dérangea pas. Et la troisième, il déclara qu'aucune juridiction humaine ne saurait juger un pape. Au cours du procès, une rixe éclata dans le Sénat. Conséquence, de nombreux chrétiens furent tués, et même, ouvrez les guillemets, les femmes consacrées à Dieu et les vierges, fermez les guillemets, furent arrachées à leur maison ou à leur monastère et fouettées nues à travers les rues. Dans ce contexte, le synode considéra qu'en effet, mieux valait laisser à Dieu le soin de juger Simac. Loin d'en être satisfait, le roi Théodoric installa Laurent dans le palais de Latran, tandis que Simac, effrayé par la violence qui régnait dans les rues, resta enfermé dans Saint-Pierre. Il y passa son temps à fabriquer des faux, destinés à prouver qu'il existait une jurisprudence. Un pape ne pouvait être jugé par les hommes. Au bout de 5 ans, on considéra qu'avoir 2 papes, c'était un de trop. Théodoric fit machine arrière et Laurent se retira dans une ferme appartenant à son protecteur, Festus, où il mourut en 507 ou 508. Une bonne partie du clergé ne se réconcilia pas pour autant avec Simac, qui persistait dans son inconduite. Il n'en fut pas moins canonisé après sa mort, comme nombre d'autres pontifes crapuleux. Le pape Hormisdas, 514-523, encore un saint homme, eut du mariage qu'il avait contracté avant son ordination un fils qui devint lui-même pape sous le nom de Silvère, 536-537. Quant à Agapite Ier, 535-536, il était le fils de Gordien, un prêtre assassiné par les partisans de l'antipape Laurent en septembre 502.
Боже, пророчество совершится, пророка Исаии, прорекшаго о последних летех, восстанут буречи, лето последняя, и будут человецы страхом Божиим гоними, восстанут благочасти и истина погиб. Кровь неповинная. взяті начнут от поганих, і не имеют где главы подклонити, видящие свое разорение, подчимся обувку. И станем против поганых, горце возопием ко Господу о своем разорении. Дай же нам, Господи, удоление на враги и помилуй нас.
Bonsoir, vous êtes toujours sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste sans Dieu, sans maître et sans publicité. Et ce soir, les muses s'amusent. Après tout, les muses sont des demi-déesses païennes. Ont décidé de rendre hommage au pape Léon qui vient visiter Paris. Et cet hommage se pratique par la lecture et le commentaire de l'excellent livre de Nigel Cawthorne, La vie sexuelle des papes, sous titre La chronique scandaleuse du Vatican. Nous sommes page 36 dans un chapitre appelé, de manière évidemment ironique, Des hommes à femmes. Au VIe siècle, deux femmes toutes puissantes eurent la haute main sur la papauté. Ainsi, le pape Vigile, 537-555, dut-il son pontificat à l'impératrice Théodora et à Antonia, femme du général Bélisaire. Théodora, surtout, avait une réputation scandaleuse. Appartenant à une famille de battleurs, elle avait très tôt brûlé les planches. Mise au service de sa sœur aînée Comito, célèbre courtisane, Théodora, encore trop jeune pour avoir des relations sexuelles, pratiquait la fellation ou la masturbation sur les esclaves des hommes qui venaient rendre visite à sa sœur. Elle devint rapidement, elle aussi, courtisane à plein temps, travaillant avec ce que l'on appelait l'infanterie, à savoir la clientèle de la plus basse extraction. Puis elle se fit actrice, n'hésitant pas à se montrer nue sur la scène, ce qui était illégal. Elle se livrait à des obscénités avec les autres acteurs. Un jour, alors qu'elle était en scène, elle demanda aux esclaves de répandre sur son sexe des grains que des oiseaux vinrent picorer. Elle devait aussi sa célébrité à l'invention de nouvelles techniques sexuelles qui séduisaient ses amants, surtout les jeunes gens imberbes. Dans ses soirées, on affirme qu'elle était capable d'épuiser 10 athlètes avant de satisfaire une trentaine de domestiques. En 527, elle épousa l'empereur Justinien à Sainte-Sophie de Constantinople. Saisie d'un zèle hypocrite, elle entreprit de nettoyer Byzance, fit fermer les bordels et expédia les prostituées au couvent. Les châtiments qu'elle inventait pour ses malheureuses étaient parfois si cruels qu'elle préférait le suicide à la rédemption. Vigile avait été envoyé à Constantinople par le pape Boniface II en tant que nonce apostolique. Théodora entreprit immédiatement de le corrompre. Elle le combla de somptueux cadeaux et promit de faire de lui un pape. L'ambitieux et cupide Vigile se laissa convaincre sans difficulté. À la mort du pape Agapite, 535-536, Théodora envoya Vigile à Rome, mais il arriva trop tard. Silvère, 536-537, venait d'être élu. Folle de rage, Théodore persuada Justinien d'envoyer le général Bélisaire déposer Silvère et mettre Vigile à sa place. Silvère fut accusé de trahison, dépouillé de la robe papale, ramené au rang de simple moine et déporté. Justinien trouva tout de même la sanction un peu rude et il ordonna un procès équitable pour Silvère. S'il était déclaré coupable, on lui donnerait un évêché. S'il était innocent, il réintégrerait ses fonctions papales. Mais Vigile ne l'entendait pas de cette oreille. Il truqua le procès, et l'exil de Silvère ayant été confirmé, fomenta son assassinat. D'après Milman, historien de l'Église, Vigil reste, ouvrez les guillemets, le personnage le plus douteux qui se fût jamais assis sur le trône de Saint-Pierre, fermez les guillemets, ce qui n'est pas peu dire, et il fut justement puni de ses crimes. On ne nous dit pas quel fut son châtiment. On sait seulement que, brouillé avec Théodora, le pape Vigile dut fuir en Sicile. Un ou deux ans plus tard, Justinien lui accorda son pardon, mais il mourut pendant le voyage qui le ramenait à Rome. À sa disparition, un autre favori de Théodora et d'Antonia, Pélage Ier, 556-561, fut élu pape. Il avait lui aussi servi à Constantinople et son successeur Jean III, 561-574, fut également intronisé avec approbation de l'Orient. Sous Jean III, le Concile de Tours, la ville française de Tours, le Concile de Tours adopta en 567 la règle bénédictine selon laquelle deux moines ne devaient jamais dormir dans le même lit. Cette règle ne fut appliquée aux religieuses que plusieurs siècles plus tard. On décida aussi que tout religieux trouvé au lit avec sa femme serait défroqué et excommunié pendant un an. Mais le concile ayant lui-même admis qu'il n'y avait guère dans toute la chrétienté de religieux n'ayant ni femme ni maîtresse, quand ce n'était pas les deux, la règle eut peu d'impact. Évêques et prêtres continuèrent de vivre au grand jour avec leurs femmes et leurs maîtresses. Les seuls véritablement punis furent les femmes, condamnées à 100 coups de fouet si on les trouvait en train de forniquer avec un prêtre. Le pape Grégoire III, 731-741, fervent adepte de la vie monastique, avait une idée fixe, lutter contre la sodomie, selon lui, ouvrez les guillemets, un vice si abominable au regard de Dieu que les villes dans lesquelles habitaient les sodomites étaient vouées au tourment de l'enfer, fermez les guillemets. Il faisait allusion à la pittoresque description de Philon d'Alexandrie, historien du 1er siècle, ouvrez les guillemets. Le pays des sodomites était le lieu de toutes les infamies, en particulier celles qui touchaient à la gloutonnerie et à la concupiscence. Les habitants rejetaient les lois de la nature et se livraient à l'abus de boissons enivrantes et de mets délicats, ainsi qu'à des formes prohibées de relations sexuelles. Non contents de profaner, dans leur concupiscence effrénée, le mariage de leurs voisins, ils s'en prenaient aussi aux hommes, sans respect pour la nature. Ainsi découvraient-ils, lorsqu'ils essayaient d'avoir des enfants, que leur semence était devenue stérile. Fermez les guillemets. Le problème était bien sûr que la sodomie et autres vices étaient plus enracinés dans le clergé que dans toute autre partie de la société. En Allemagne, saint Boniface constata une telle dépravation parmi les prêtres et les évêques qu'il demanda à Grégoire III la permission de s'en désintéresser. Néanmoins, Grégoire III se vit contraint de placer l'Église sous la protection de Charles Martel, chef des Francs, qui, en contrepartie, se servit des couvents comme de bordel et n'hésita pas à pervertir des évêques. À Zacharie, successeur de Grégoire, saint Boniface affirma que tout le clergé de Germanie vivait dans la luxure. Des hommes qui avaient commis viols et adultères dans leur jeunesse étaient élevés aux plus hautes fonctions. Les prêtres, ajouta encore Boniface, pouvaient passer la nuit avec 4 ou 5 femmes et se lever le matin pour aller célébrer la messe.
Marie, Dieu, чистая, пресвятая Богородице, радуйся, невесто, не невестная, царице, мати, деву, руно все покрывающее, радуйся, невесто.
Bonsoir, vous êtes toujours sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître et sans publicité. C'est toujours les muses s'amusent et nous continuons à honorer la visite du pape Léon à Paris ce mois-ci de septembre en lisant des extraits du livre réjouissant de Nigel Cawthorne, La vie sexuelle des papes, la chronique scandaleuse du Vatican aux éditions Evergreen. Un chapitre merveilleux, page 61, qui s'appelle la pornocratie. Et le mot pornocratie, tout simplement, ça veut dire le gouvernement des corps. La pornographie, c'est l'écriture des corps. La pornocratie n'est pas un terme moderne, c'est un terme très ancien qu'on trouve justement, bizarrement, chez les historiens de la papauté. Allez, on commence cette lecture. Le pape Étienne VI, 896-897, flirta dangereusement avec la nécrophilie lorsqu'il fit déterrer le cadavre de son prédécesseur Formose, 891-896, et ordonna qu'on le revêtît des attributs papaux et qu'on l'assît sur le trône pontifical afin de lui intenter un procès pour s'être parjuré et avoir osé briguer la papauté. Responsable de cet outrage posthume, la première d'une nouvelle série de faiseuses de papes, Agiltruda, duchesse de Spolète. On la disait très belle femme, avec de grands yeux bleus, de longs cheveux blonds. Elle était à la tête d'une armée qui s'empara de Rome en 894. Arnulf, empereur du Saint-Empire romain, indigné par cette agression, envoya à son tour une armée commandée par le pape Formose pour réexpédier la duchesse à Spolète. Formose mourut peu de temps après avoir repris la ville, sans doute d'une crise cardiaque, mais certains prétendent qu'il fut empoisonné par Agiltruda. Il fut enterré en grande pompe à Rome et remplacé par Boniface VI, 896. Déjà défroqué à deux reprises pour immoralité, Boniface n'était pas le candidat rêvé pour devenir pape. Après la deuxième fois, on ne l'avait pas rétabli dans ses fonctions, ce qui ne l'empêcha pas de se faire élire. Grâce au soutien populaire, les Romains se soulevèrent en sa faveur. Son pontificat dura toutefois 15 jours, et il est à peu près sûr qu'il fut victime des poisons d'Agiltruda. Celle-ci reprit Rome et installa Étienne VI sur le trône de Saint-Pierre. De l'avis de tous, Étienne était un fou furieux, voilà précisément ce qui plaisait à la duchesse. En effet, ce fut sur sa suggestion qu'il fit déterrer le corps décomposé de son prédécesseur pour le juger. Agiltruda assista à l'infâme synode du cadavre, enchanté de voir son ennemi bafoué au-delà de la mort. Mais elle avait emmené avec elle sa fillette de 6 ans, Marozia, qui produisit un effet certain sur Sergius, un cardinal de 30 ans, son aîné. À côté du cadavre de Formose se tenait un diacre de 18 ans qui répondait à sa place. Hélas, il fut un piètre avocat et Formose fut déclaré coupable de tous les chefs d'inculpation avancés contre lui. On lui arracha ses vêtements et on lui coupa les 3 doigts de la main droite qui servent à la bénédiction papale. Après quoi, le pauvre cadavre fut traîné dans les rues de Rome et jeté dans le Tibre. Le cardinal Sergius tendit les 3 doigts à la duchesse. Au moment où il lui offrait ce macabre présent, son regard croisa celui de la petite Marozia. Malgré les 30 ans qui les séparaient à cet instant-là, un lien se forgea qui allait déterminer le cours de la papauté pendant tout le siècle suivant. Au moment où le pape Étienne, Agiltruda, Marozia et le cardinal Sergius quittaient le palais du Latran, après donc le synode du cadavre, un grondement monstrueux s'éleva de la basilique Saint-Jean, dont les ruines étaient depuis longtemps abandonnées. Le bâtiment venait de s'effondrer. Les habitants de Rome virent là un mauvais présage. Et si jusqu'alors le synode du cadavre avait été considéré comme une inoffensive plaisanterie, celle-ci tourna bientôt au drame. Des rumeurs commencèrent à circuler. Le cadavre avait accompli des miracles. et la population se souleva contre le pape Étienne. On s'empara de lui, on lui arracha les insignes pontificaux, puis il fut déposé, jeté en prison et étranglé dans sa cellule. Adiltruda, outré, fondit à nouveau sur Rome et imposa à l'Église le pape Romain. Voilà, Romain, c'est son prénom. 897. Au bout de 4 mois, elle s'en lassa et le fit remplacer par Théodore II, 897, lequel mourut prématurément dans des circonstances mal éclaircies. Et cela continua ainsi en 904, quand le pape Léon V, 903-904, et l'antipape Christophe, 903-904 également, qu'il avait détrôné, furent assassinés. Rome avait connu 8 papes en 8 ans. Les papes changeaient si souvent que les domestiques du palais du Latran arrondissaient leur fin de mois en revendant les décorations des appartements à chaque migration pontificale. Avec pareil début, rien de surprenant à ce que la papauté du Xe siècle soit devenue synonyme d'abus et de corruption. On finit par en parler comme d'une pornocratie menée par celle qu'une bonne partie de la chrétienté considérait comme de catin, une combinaison mère-fille, Théodora et Marozia, toutes deux maîtresses des papes. À l'époque, aucun empereur ne régnait sur Rome. La ville était dirigée par Théophylacte, consul, chef de la milice et directeur financier du Saint-Siège. Détail essentiel, il était aussi l'époux de l'ambitieuse Théodora. Elle passait pour une catin sans vergogne, ayant 2 filles, Marozia et Théodora, qui ne jouissaient pas d'une meilleure réputation que leur mère. Petite interruption, vous notez la série des noms Théodora. Désolé, hein, il y en a eu plusieurs. Et en tout cas, en ce qui concerne M. Cawthorne, toutes aussi abominables les unes que les autres. La jeune Théodora était probablement la fille de l'homme qui devint pape sous le nom de Jean X, 914-928. Marozia semble avoir mieux profité des leçons de sa mère. Elle avait vu aussi Adiltruda à l'œuvre lors du synode du cadavre et elle ne manquait pas d'ambition. Elle se rendait souvent au palais du Latran, car son père était le premier sénateur de Rome. Lorsque Sergius coucha avec elle la première fois, elle n'était qu'une jolie gamine. Pendant le reste de son pontificat, excusez-moi, il faut que je vous précise que là, quand je parle de Sergius, il était devenu pape. Il sera pape de 904 à 911. Pendant le reste de son pontificat, il jouit du plaisir délicieux de la voir s'épanouir et devenir une femme d'une beauté stupéfiante. De son côté, dans les bras du pape, Marozia s'enivrait non pas d'un amour passionné romantique, comme c'est souvent le cas à cet âge, mais de l'extase du pouvoir. L'histoire la jugea comme, ouvrez les guillemets, une catin d'une extrême impudence, fermez les guillemets, et on l'accuse d'avoir gravement souillé la fonction papale. Le fils que lui donna Serge, donc le pape Serge, devint le pape Jean XI. Vous suivez toujours. Je répète la phrase de Nigel Cawthorne. Le fils de Marozia que lui donna Serge, pape, devint le pape Jean XI. 931-936. Serge III, donc le pape de Marozia, n'a pas laissé une très bonne image. Les historiens observèrent que pendant toute la durée de son pontificat, il ne cessa de commettre, ouvrez les guillemets, des abominations infinies avec des femmes légères, fermez les guillemets. D'après l'un d'eux, Baronius, non seulement Serge aimait les très jeunes filles, mais il était l'esclave de tous les vices et le plus méchant des hommes. Il fit reconstruire la basilique de Latran, restée à l'état de décombre depuis le fameux synode du cadavre, et pour faire bonne mesure, recommença tout le procès de Formose, qui ne s'en tira pas mieux que la première fois. Théodora choisit les 2 papes suivants, Anastase III, 911-913, et Landon, 913-914. Ni l'un ni l'autre n'étaient des parangons de vertu, et Landon, raconte-t-on, ouvrez les guillemets, célibataire de son état, consuma l'essentiel de sa vie en compagnie de femmes lascives, et fut finalement consumé lui-même, après 7 mois de règne, fermé les guillemets. Il avait un fils bâtard, Jean, dont Théodora la mère de Marozia, vous suivez toujours, était tombée amoureuse quelques années auparavant. Elle avait donc, Théodora, usé de son influence sur Serge, alors pape, pour faire nommer Jean évêque de Bologne, puis archevêque de Ravenne. Mais détestant l'idée que son amant fût si loin, à la mort du pape Landon, Théodora s'arrangea pour que Jean lui succéda au palais de Latran, où elle put ainsi être la compagne de ses nuits. Il devint donc le pape Jean X, 914-928. Louis de Prande, évêque de Crémone, nous apprend que tout cela ne faisait pas le bonheur de Marozia et qu'une rivalité malsaine naquit entre la mère et la fille. Or, le fils de Marozia n'avait que 6 ans, ce qui était quand même un peu jeune pour accéder au pontificat. En 914, Marozia avait 22 ans et était, dit-on, à l'apogée de son charme et de sa beauté. Elle possédait sur l'Isola Tiberina, un îlot au milieu du Tibre, une petite propriété où elle recevait jeunes nobles et prélats. La plupart étaient évêques, de ceux qui disaient la messe chaussés de leurs éperons, la dague à la ceinture, tandis que leurs chevaux les attendaient tous scellés à la sortie de l'église, afin que, dès l'office terminé, ils puissent partir chasser le sanglier ou faire voler leurs faucons. Ces évêques habitaient de luxueuses demeures, tendues de velours pourpre, et dînaient dans des vaisselles en or au son des musiciens accompagnant les danseuses. Ils dormaient entre des draps de soie, dans des lits incrustés d'or et ornés des souvenirs de leurs amours précédentes. Marozia se sentait chez elle dans cet univers. Albéric, un prince lombard, débarqua un beau jour au milieu de ce tableau décadent. On vit bientôt en lui une menace, si bien que le pape Jean X et Théodora décidèrent de lui faire épouser Marozia afin de le tenir sous contrôle. Périlleuse stratégie, car de simples menaces, Albéric entre les mains de Marozia devint un danger véritable. Au lieu d'en faire un allié de sa mère et de Jean, la jeune femme persuada son nouveau mari d'attaquer Rome. L'entreprise échoua, Albéric fut tué, et Jean X obligea la jeune veuve à contempler le corps mutilé de son époux. Encore un mauvais calcul. Marozia, désormais mère d'un petit Albéric II, était plus que jamais capable d'ourdir sa vengeance. De fait, en 928, à la mort de sa mère Théodora, elle fit emprisonner Jean X, et dans l'espoir de faire monter son premier bâtard sur le trône pontifical, fit étouffer sa sainteté, son beau-père, avec un oreiller. Trompeuses espérances, commente Louis de Prande, qui ajoute, car tout de suite après la mort de Jean X, Léon VI fut élu. Marozia ne fut pas longue à l'empoisonner afin de libérer la voie pour son bâtard. Nouvelle déception, après la mort de Léon, ce fut Étienne VII qui fut élu. Il mourut quelques années plus tard, en 930, de la même manière et de la même main. À force de persévérance, Marozia finit par voir son fils devenir pape sous le nom de Jean XI. On dit qu'il passa l'essentiel de son pontificat en compagnie de, ouvrez les guillemets, femme d'une lubricité bestiale, fermez les guillemets. Vous êtes toujours sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste sans Dieu, ni maître, ni publicité. Ce sont toujours les Muses s'amusent qui, ce soir, interrompant leur cycle sur le Louvre, célèbrent la venue du pape Léon à Paris. Et de quelle manière ? En lisant des extraits du livre de Nigel Cawthorne, La vie sexuelle des papes. Et puis maintenant, nous allons lire des extraits du livre d'André Lorullo, célèbre anarchiste, de son livre donc appelé Histoire des papes, qui avait été publié par les éditions de L'Idée Libre. Et je ne saurais trop recommander à tous nos compagnes et compagnons éditrices et éditeurs d'essayer de rééditer cet excellent ouvrage. Page 78 du livre « Histoire des papes » d'André Lorullo, voici ce qu'on lit. Pour édifier le lecteur sur l'œuvre moralisatrice du Vatican, il me suffira de reproduire quelques documents puisés au hasard à travers les siècles. Quatrième siècle. Le frère se sépare de sa sœur qui fait profession de virginité. La sœur dédaigne son frère qui vit dans le célibat et cherche ailleurs un autre frère. Tous deux paraissent prendre le même parti, puis, sous prétexte de se procurer des consolations spirituelles, ils ont chez eux, avec des étrangers, un commerce charnel. Ça vient de Des Custodias de Saint Jérôme. Or, Saint Jérôme, toujours... Puis-je raconter sans douleur combien de vierges succombent tous les jours, combien l'Église envoie périr dans son sein, combien, semblables à des étoiles scintillantes, deviennent les esclaves du démon, combien de cœurs, enfin aussi durs que la pierre, s'ouvrent cependant à ce serpent qui s'y glisse comme dans une retraite. Quelles sont celles-là qui, la tête haute, marchent à pas compté, cachant sous une toilette simple et modeste une vie déréglée, que l'on ne connaît que par leur grossesse et par les cris de leurs enfants. Ce sont les vierges devenues veuves avant leur mariage. Il y en a qui procurent la stérilité à leur sein et ainsi commettent l'homicide d'un homme qui n'est pas encore né. D'autres, se sentant criminellement enceintes, ont recours aux poisons qui font avorter. Et comme souvent elles périssent avec leur embryon, elles descendent aux enfers chargées de 3 crimes, homicide d'elle-même, adultère de Jésus-Christ, parricide de leur enfant, même avant sa naissance. Vous voyez que Saint Jérôme, dans Des Custodias, ne mâche pas ces mots, petit salopard. Passons au 5e siècle. Nous appelons les femmes qui demeurent avec nous, nos mères, nos sœurs et nos filles, n'ayant point honte d'employer ces noms de piété à couvrir nos débauches. Que fait le moine ? Dans la chambre des femmes, que signifient ces tête-à-tête intimes et ces yeux qui fuient les témoins ? 6e siècle. L'incontinence, à en juger par le grand nombre de canons qui la condamnent, paraît avoir été la grande plaie du clergé espagnol. Ceci, c'est dans un livre de M. l'abbé Guyot, Somme des conciles. 7e siècle. Le concile quinisecte, ou Intrullo, en 692, nous apprend, canon 86, qu'il était devenu urgent de réprimer un scandale courant, le proxénétisme des clercs. Les clercs tenaient des lupanars. 8e siècle, les mœurs du clergé vont se corrompant chaque jour davantage de l'aveu des conciles successifs de 742, 744, 747, 753, 757. Les prêtres portent les armes, se livrent aux orgies, à l'usure, à la simonie. L'orgueil, l'avarice, la luxure et l'ambition sont leurs vices les plus communs. 9e siècle. Le concile de Mayence nous informe que les clercs n'auront absolument aucune femme chez eux, pas même leur sœur, car il y a des prêtres qui, faisant de leur propre sœur leur concubine, leur ont engendré des enfants. Je rappelle que ça, c'est un concile qui l'a dit. 10e siècle. Pendant plus de 50 ans, l'Église fut gouvernée par 3 prostituées, lesquelles firent 3 papes. Là, La vie sexuelle des papes de Nigel Cawthorne vous a raconté l'histoire. Mais quand même, pour s'en tenir à ce fameux 10e siècle, voici ce que nous dit M. Louis de Prande, que Nigel Cawthorn a cité. Nous ne disons rien qui ne soit vu et avoué de tout le monde. Nous en pouvons prendre un témoin, la veuve de Régnier, son vassal dont il est si amoureux, qui lui a confié le gouvernement de plusieurs villes et qui lui a donné des croix et des calices d'or de l'église de Saint-Pierre du Vatican. Nous en prendrons encore à témoin Étiennette, une de ses maîtresses qui mourut ces jours passés en accouchant avant terme d'un enfant qu'elle avait eu de lui. Mais quand ces personnes-là demeureraient dans le silence, les pierres crieraient. Et le palais de Latran, qui était autrefois une retraite de personnes de vertu, et qui est devenu maintenant un lieu de débauche et de prostitution, élèverait sa voix pour lui reprocher ses amours et pour condamner le commerce infâme qu'il entretient avec la sœur d'Étiennette, Étiennette concubine d'Albéric, son père. Nous prendrons encore à témoin l'absence des femmes de toutes les nations qui n'oseraient venir faire leur prière au tombeau des apôtres de peur d'y recevoir un traitement pareil à celui ont reçu des femmes mariées, des veuves et des filles qui ont été les victimes de son impudicité. Alors, l'accusé de ce texte, c'est tout simplement le pape Jean XII, qui était probablement l'un des pires papes de l'histoire, et ça n'est pas peu dire. Et cette accusation, eh bien, c'est l'accusation d'un concile, donc d'une assemblée de dizaines, voire de centaines d'évêques. Continuons toujours avec ces textes que nous présente André Le Rulot dans son Histoire des papes. Ouvrez les guillemets, on est toujours au Xe siècle. Ces débauches étaient payées avec le trésor de l'Église que la simonie alimentait et que l'on avait garde d'employer aux usages légitimes. On parle d'un évêque consacré à l'âge de 10 ans, d'un diacre ordonné dans une écurie, de dignitaires aveuglés ou transformés en eunuques. La cruauté complétait l'orgie. Pour que rien ne manquât, on raconte que dans les festins de Latran, il arrivait au pape de boire à la santé du pape. Il arrivait au pape, pardon, de boire à la santé du diable. Fermez les guillemets. Attention, ce texte a été écrit par l'abbé Duchesne, chargé de cours à la faculté catholique de Paris. La chose étant rapportée par « Les commencements de l'État pontifical », un livre publié chez M. Albert Fontemoin, éditeur à Paris en 1898. Au XIe siècle, trois papes siègent concurremment à Rome, Sylvestre II à Saint-Pierre, Jean XX à Sainte-Marie-Majeure et Benoît IV au palais de Latran. Ouvrez les guillemets. Les évêques en vert... Les évêques en vinrent à ce point de vilenie qu'ils se firent des rentes avec la luxure de leurs prêtres. Ils permirent en effet aux prêtres d'entretenir des concubines chez eux, pourvu qu'ils payassent une amende à eux, évêques. Ceci ayant été rapporté par le concile de Lillebonne en 1080. Le concile de Pavie, en 1020, dit dans son canon « Les fils et les filles de tous les clercs, sans exception, qui sont nés d'une femme libre, quelle qu'elle soit, et quel que soit le genre d'union de cette femme, mariage ou concubinage, tous ses fils et filles, avec tous les biens qu'ils ont reçus de n'importe quelle main, appartiendront comme serfs à l'église de leur père, et jamais ils ne pourront être affranchis du servage de l'église. » Fermez les guillemets. Ouvrez les guillemets. Les femmes qui, dans l'enceinte de Rome, se seront prostituées à des prêtres, appartiendront au palais de Latran comme esclaves, fermez les guillemets, ceci étant un décret du pape Léon IX au cours du concile de Rome en 1051. Au XIIe siècle, nous apprend André Le Rulot, les scandales des siècles précédents atteignent de telles proportions qu'on ne compte pas moins de 11 conciles réunis pour les flétrir et provoquer des ordonnances qui resteront lettres mortes. Les conciles de Londres en 1102, 1108, du Latran, 1123, à nouveau de Londres, 1125, 1127, 1129, à nouveau le Latran, 1139, à nouveau Londres, 1175, à nouveau Latran, 1179, Rouen en 1189, Dalmatie en 1199, et le concile de Latran, 1179, canon 11e, constate que les clercs sont infectés d'un vice contre nature. Allez, on continue avec le 13e siècle. Aucune plaie de l'Église, à l'exception de l'incontinence, ne fut plus étendue ni plus envenimée que celle de la simonie. On comptait difficilement les évêques déposés pour ce crime par les papes ou par leurs légats. Le nombre des prêtres échappe à l'histoire à la faveur de leur subalternité. L'Église était envahie par la concupiscence des yeux et par l'orgueil de la vie. C'est à nouveau l'abbé Guyot qui parle. Bref, ces deux livres, La vie sexuelle des papes et L'histoire des papes d'André Lorullo, nous montrent que l'Église catholique est un reliquaire de la morale. Vous savez que dans les reliquaires, il y a des choses mortes. C'était Les Muses s'amusent, et je serai donc ravi de vous revoir tous les premiers lundis du mois à 21h, également dans le Proton sort bif, les troisièmes lundis du mois, là aussi à 21h. Je vous souhaite une excellente soirée. Les Muses s'amusent. Vous êtes sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, sans Dieu, ni maître, ni publicité.
Petit wagon rose avec des coussins bleus, nous serons bien un nid de baisers fous repose dans chaque coin moelleux. Tu fermeras l'œil pour ne pas voir par la glace grimacer les ombres des soirs, ces monstruosités hargneuses, populace de démons noirs et de loups noirs. Puis tu te sentiras la joue égratignée, un petit baiser comme une folle araignée te courra par le cou. Et tu me diras, cher, en inclinant la tête, et nous prendrons du temps à trouver cette bête qui voyage beaucoup.
équilibre fragile. J'ai tout vu, je n'ai rien retenu. Pendant que ton ombre en douce te quitte, entends-tu les autres qui se battent? Les comètes qui me passent une à une au travers de la tête. J'y pense encore, j'y pense, j'y pense encore, j'y pense. À cette époque, on n'écoutait qu'à peine le clic-cloc des pendules. À l'heure où je te parle, sans entrave, en attendant la suite des carnages, il se peut qu'arrive la limite. J'y pense encore, j'y pense. Ensemble maintenant, on peut prendre la fuite. Disparu, fuite. Avant qu'ils aient.
Chanson au DRH à transmettre au PDG, qui transmettra aux actionnaires, copie au comité entreprise et aux délégués du personnel. C'était il y a 10 ans qu'un tout petit ouvrier travaillait sans compter ses heures non payées dans une PME. Il se croyait chanceux de rembourser sa maison et celle du patron. Quelques années plus tard, sans même le concerter, l'entreprise est vendue à un groupe financier. Patron a négocié, en vendant son affaire, une place de PDG, le reste en billets verts. Il restera 6 mois et se fera remplacer par quelqu'un dans le même cas, qui viendra ramasser le pognon que toi mon gars, tu te vois refuser au nom de je ne sais quoi. Ton salaire est gelé, mais on dit que c'est ta faute. Tu voulais 35 heures, ferme ta gueule ou tu sautes. On n'aime pas trop les chieurs quand la reine l'actionnaire lui dit le matador me paye pour te faire taire, exige ta mise à mort. Tout petit ouvrier, un jour est licencié, fatigué, écœuré, même plus syndiqué. Il a 45 ans, parle comme un retraité, qui s'est battu 20 ans, qui n'a jamais rien gagné. Le patron opportuniste, boursicote à Wall Street, se dit même socialiste, dans un petit village suisse, député débutant, honnête et pas content, car il ne comprend rien. Sa mise en examen. Et toi le petit ouvrier qui se plaindra tout le temps de ne pas pouvoir acheter ce que tu veux chez Auchan. Aujourd'hui il y a des prêts, facilité de paiement, 150 fois sans frais à 55%. La la la. We'll be right back.
Merci beaucoup. Quelle ambiance. Le petit ouvrier, au lieu de rentrer chez lui, retrouver sa femme qui gueule et ses enfants qui braillent, il préfère aller dans le bar le plus proche de son entreprise. Il pose une main sur le comptoir, il lève l'autre et il demande, s'il vous plaît, un Ricard.
وكمان لجان عشان عيون المعركة.
وكمان لجان عشان عيون المعركة.
سلام يا واد للست مع مع معركة.
سلام يا واد للست مع مع معركة.
كمان سلام لأهل بيت المعركة.
كمان سلام لأهل بيت المعركة.
سلام يا مام.
Qu'on entende parler que de la bataille.
Qu'on entende parler que de la bataille.
Que tous les efforts soient mis au service de la bataille.
Que tous les efforts soient mis au service de la bataille.
Que des chants mélodieux exaltent la bataille.
Que des chants mélodieux exaltent la bataille.
Encore des comités pour les beaux yeux de la bataille.
Encore des comités pour les beaux yeux de la bataille.
Un coup de chapeau, les gars, pour Notre-Dame de la bataille.
Un coup de chapeau, les gars, pour Notre-Dame de la bataille.
Un coup de chapeau à ceux qui préparent la bataille.
Un coup de chapeau à ceux qui préparent la bataille.
Encore des empreintes du trésor pour la bataille.
Encore des empreintes du trésor pour la bataille.
Il faut que tout le monde participe à la bataille.
Il faut que tout le monde participe à la bataille.
Aucun être vivant ne pourra se soustraire à la bataille.
Aucun être vivant ne pourra se soustraire à la bataille.
Que la mort me prenne s'il n'a pas lieu la bataille.
Que la mort te prenne s'il n'a pas lieu la bataille.
Inéluctablement aura lieu la bataille.
Inéluctablement aura lieu la bataille.
Un coup de chapeau à l'inéluctabilité de la bataille.
Un coup de chapeau à l'inéluctabilité de la bataille.
Un discours capital va exposer le déroulement de la bataille.
20 discours capitaux ont exposé le déroulement de la bataille.
Nous avons mobilisé 1 million de soldats pour la bataille.
Vous avez mobilisé 1 million de soldats pour la bataille.
Nous avons pétri du pain noir pour la bataille.
Nous avons mangé du pain noir pour la bataille.
Le peuple a faim, le peuple a froid pour la bataille.
Le peuple a faim, le peuple a froid pour la bataille.
Le peuple, le destin, l'honneur, la bataille.
Tu nous fais chier, où est-elle cette bataille?
Fermez vos gueules et criez en cœur, vive la bataille.
Où est-elle cette bataille?
Comment, police, arrêtez ces espions? Ne m'avez-vous pas entendu dire qu'on ne doit parler que de la bataille?
Où est-elle cette bataille?
Quelque toute bataille ne parle que de la bataille.
Où est-elle cette bataille?
Que toutes les batailles ne parlent que de la bataille.
Où est-elle cette bataille?
Que la bataille de la bataille pour la bataille sur la bataille et la bataille de la bataille pour la bataille de la bataille. Que toutes les batailles ne parlent que de la bataille.
Où est-elle cette bataille?
Que toutes les batailles ne parlent que de la bataille.
Où est-elle cette bataille?
Que la bataille de la bataille sur la bataille pour la bataille et la bataille.
Ça va décevoir.
Nous sommes désolés, c'est la page de la page. Vous pouvez aller aux toilettes si vous voulez voir la page de Diva.
On est obligé d'y venir grâce à la CFDT. Nous avons le nouveau protocole.
Mais pour la majorité des gens, la CFDT, c'est les retraites, mais pour nous, ça fait mal aussi.
On va la battre un peu, ça ira. 1, 2, 1, 2, 3.
Avant, la vie était si triste, une vraie pénurie communiste. Quand je cherchais le numéro d'un plombier d'un garage auto, pas de choix, pas de liberté, j'étais obligé d'appeler le tout.
Oh oui, le tout. Le tout. Rien que le tout.
1, 2, 3, 4.
Et puis le soleil s'est levé. La concurrence, la liberté. Tous les numéros ont leur place. Comme au loto à Las Vegas. Et quand je cherche un numéro, le plombier d'un garage auto.
de choix, pas de liberté. J'étais obligée d'appeler le doux.
Henri le
doux. Le doux,
rien que le doux.
1, 2, 3, 4.
Et puis le soleil s'est levé. La concurrence, la liberté. Tous les numéros ont leur place. Comme on le tombe à Las Vegas. Et quand je cherche un numéro, la boulangerie, la dermato, je suis client, je suis le roi. De mon portable ou de chez moi, j'appelle, j'appelle, j'appelle.
118 avant Jésus-Christ.
118, 0, 9, 3.
118, moins 50 pour former la
crise.
89.4, la radio de la Fédération anarchiste.
En amour, ça commence par des chansons, ça finit toujours par du chagrin. Les amants du bout de la nuit n'ont plus qu'un souci, celui d'oublier. Pour t'aimer, je m'enroulerai comme un grand vaisseau au houle du cœur. En amour, tout commence par des chansons, tout finit par du chagrin. En amour, le cœur a parfois ses raisons, des raisons qui ressemblent au désespoir. En amour, ça commence par des chansons, ça finit toujours par du chagrin. Au printemps, lilas malheureux fleurit pour nous deux, nous ressemblerons. Tu vivras tant que je vivrai et mon ça finit toujours par du chagrin.
chanter jusqu'à vous, par-delà les grillages
des chiens au garde à vous. Puisqu'on est tous pareils et tellement différents, le même sang dans les veines, écoutez, monte le sang.
Mondial stéréo,
mondial stéréo,
couleur dans ta sono. Mondial stéréo,
mondial stéréo,
de Rabat à Tokyo. Mondial stéréo,
mondial stéréo,
la vie loin du ghetto. Mondial stéréo,
mondial stéréo,
de Cuba au Togo.
Stéréo mondial.
Perdu mon père, pour eux je chanterai
l'amour et puis la paix.
Puisqu'on est tous pareils et tellement différents, on vit sous le même soleil, chantons cette chanson. Mondial stéréo,
mondial stéréo,
danse sur le tempo. Mondial stéréo,
mondial stéréo,
Tartas à Oslo. Mondial stéréo,
mondial stéréo,
sans frontières ni drapeau. Mondial stéréo,
mondial stéréo,
de Lima à Porto.
Je les ai pour la vie, même loin de ma Syrie.
Aujourd'hui, 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 je souris. Puisqu'on est tous pareils, qu'on est tous différents, ce son dans tes oreilles, vas-y, mets-le à fond. Mon stéréo, mon stéréo,
ce qu'on dit, c'est la vie qui décide. Elle passe entre les lignes en s'excusant du peu. Et ça n'est pas sa faute si elle ne coïncide ni avec ce qu'on dit, ni avec ce qu'on veut. Je vais parler d'un temps que tu vas reconnaître. C'est le tien, tu y mets ton courage et tes mots. Mais chacun ne voyant midi qu'à sa fenêtre, tu ne recevras de moi que ton propre écho. La parole de l'autre est souvent décevante. La parole de l'autre est souvent en dessous. Car qui parle est toujours une énigme vivante. Et même quand on s'applique, on comprend pas tout. Les mots ne parlent bien qu'à la cause commune. Quand tout un peuple crie pour sa vie, pour son pain. Quand le mal ne fait qu'un, le verbe fait fortune. Et ce que dit un seul est compris par chacun.
ça n'est pas tant sans faux le cas dans nos parages, où sur le bien commun le mal est solitaire. Les drames, ils sont nombreux, honteux et sans partage. Plus ils sont variés, moins ils sont solidaires. La parole de l'autre n'y est pas dérangeante. La parole de l'autre n'y est qu'en dessous. Mais qui parle est toujours une énigme exigeante. Il faut bien se dire qu'elle a besoin de nous. Qu'importe ce qu'on dit, tout est dans ce qu'on porte. À qui sait regarder, tout être se confie. Et il ne faut pas croire qu'une parole forte peut se passer du cœur pour atteindre l'esprit. La parole de l'autre est une lettre morte. Si tu ne l'embrasses pas pour lui donner la vie, la parole ne sert qu'à entr'ouvrir la porte. Et la musique est là pour ne pas qu'on s'ennuie. La parole ne sert qu'à entr'ouvrir la porte. Si l'amour fait le reste, on se sera compris.
Mes grands-parents devaient fouler ce sable blanc. Des gamins essayaient en vain, avec leurs barrages qu'aux humains, de contenir cet océan. Parfois même ils vidaient la mer avec un seau et une passoire pour remplir le seau qu'ils déverseraient un peu plus tard, un peu plus haut.
En arrière, pour le grand bond en avant, en arrière. Pour le grand bond en avant, en arrière, en arrière, en arrière.
En attendant, il y avait urgence, il y avait même un sacré boulot à occuper toutes les vacances, éviter toute inondation, colmater les infiltrations d'un océan un peu taquin qui réduisait comme peau de chagrin cet édifice construit pour rien. Une bonne leçon pour les lendemains, les lendemains.
En arrière, pour le grand bond en avant, en arrière, en arrière, en arrière. En arrière, pour le grand bond en avant, en arrière, en arrière, en arrière.
Quand disparaît un paramètre, on met le parasol en arrière. C'est un repli drôle de manière, vouloir gagner ainsi la guerre, préserver son lot point de terre. Des milliards d'hectares pollués que la mer voudrait bien avaler, plutôt que de voir ingurgiter ces tonnes de lisier déversées. La note est parfois bien salée.
En arrière, pour le grand bond en avant, en arrière, en arrière, en arrière. En arrière, pour le grand bond en avant, en arrière, en arrière, en arrière.
Lorsque l'on voit débarquer sur une plage ou ce qu'il en reste, c'est détritus, cette saleté, les nouvelles venues, l'algue verte, les enfants n'ont qu'à nettoyer. En s'amusant, c'est plus marrant, faut juste éviter de respirer. Et si le tracteur arrive au champ, éviter de se faire écraser et s'en aller.
En arrière, pour le grand bond en avant, en arrière. En arrière, pour le grand bond en avant, en arrière, en arrière, en arrière.
Mais dans 100 ans, mes petits-enfants viendront sur les digues, les falaises, parler climat de réchauffement, manger du chocolat fondant trop vite sur une glace à la fraise. Et sur une plage synthétique au bord d'un lac ou d'une rivière, baignade interdite au public, ce sera leurs vacances à la mer.
en arrière, pour le grand bond en avant. En arrière, en arrière, en arrière. En arrière, pour le grand bond en avant. En arrière, en arrière, en arrière. En arrière, pour le grand bond en avant. En arrière, en arrière, en arrière. En arrière, pour le grand bond en avant. En arrière, en arrière.
Assassiné.